Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Merci de votre fidélité, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Comment assurer une bonne prise en charge des cas de traumatisme en République démocratique du Congo? Comment assurer une bonne santé mentale à la population? Eh bien, on en parle avec Dr Ali Njoukendji, neuropsychiatre au centre neuropsychopathologique de CNPPE à Kinshasa. Dr Ali, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Vous avez des questions et des préoccupations par rapport à la santé mentale de la population congolaise et des cas de traumatisme? Eh bien, appelez pour participer au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission et il est assisté par Louange au micro. C'est jeudi Daniel Kachama, Alain Goy, à la mise en onde.
Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre interview.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience
qu'il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
En République démocratique du Congo, de nombreuses personnes subissent au quotidien des événements traumatisants, vols à main armée, violences sexuelles et domestiques, des tueries à la machette, enlèvements et abus divers. Selon les experts, la santé mentale des nombreux citoyens est perturbée à la suite des nombreux problèmes existentiels, parmi lesquels vous avez la pauvreté, le manque d'argent, les tracasseries, etc., les déceptions, etc. Alors, vu l'ampleur des situations traumatisantes que subissent les populations, congolaises, alors il est surprenant que la prise en charge psychologique et psychiatrique ne soit pas intégrée dans les structures sanitaires de la RDC, dans le paquet des soins des santé primaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ce problème? Comment assurer une bonne prise en charge des cas de traumatisme, assurer une bonne santé mentale à la population? On en parle avec Dr Ali Njoukendji, neuropsychiatre. Dr Ali, encore une fois, bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, nous parlons de la santé mentale de la population. De quel état des lieux vous faites de cela, docteur?
L'état des lieux de la santé mentale de toute la population congolaise en général est vraiment déplorable, vu beaucoup de traumatismes que la population aura subi. D'une part, quand vous prenez la partie est, qui est pratiquement un état de siège, qui a des répercussions sur le plan psychologique, sur le plan social de toute la population, et cela ne concerne pas seulement ceux qui y vivent, même ceux qui sont loin de cette réalité. Mmh. Et quand vous insistez à un autre aspect, toujours à l'Est, l'année passée, nous avons connu l'éruption volcanique, et ces derniers temps, on dit que le risque est toujours permanent. Donc, les gens vivent dans un état d'anxiété permanente. Ils ne savent pas quand est-ce que l'événement va surgir. Donc, cet état d'attente anxieuse ne peut que effondre l'état de la santé mentale de la population. Et quand vous allez dans d'autres provinces, la situation sociale en général, ça pose problème. Quand on a l'impression
la pauvreté,
quand vous avez le temps, l'impression d'avoir une lueur d'espoir, vous allez dire, par exemple, la gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose qui est bien, mais la concrétisation pose encore problème d'un côté ou de l'autre. Il y a des enseignants qui en souffrent, il y a certaines écoles qui posent problème, certains parents ont fait quitter leurs enfants dans des écoles publiques pour aller dans des écoles privées, et le coût suit et ça pose toujours problème. De l'autre côté, certains enseignants qui se voyaient avoir beaucoup plus d'argent avant la gratuité, et avec la gratuité, ils ont l'impression qu'ils ont perdu tous les avantages. Donc, dans l'ensemble, quand nous parlons même de l'état sanitaire, de l'ordre général avec la pandémie de la COVID-19 qui pose problème, même dans la matérialisation de la prise en charge, sur le plan clinique, ça pose beaucoup de problèmes. Ça a des répercussions sur le plan économique, sur le plan, beaucoup de gens ont perdu le leur. Et la prise en charge continue encore à poser problème. Et allez-y comprendre, lorsque vous devez vous déplacer, vous devez faire encore des tests qui coûtent. Mais dans le quotidien, nous entrons dans des bus, nous entrons dans des taxis, on ne respecte pas les mesures barrières. On attend seulement de pouvoir faire les tests lorsqu'on devra voyager. Conséquence, l'état mental en général pose problème parce qu'on a l'impression que ça, ce n'est qu'un problème purement physique, pas c'est une maladie infectieuse, mais c'est une répercussion grave sur la santé mentale, non seulement de l'individu qui présenterait la maladie, de son entourage et de toute la population, d'autant plus que la personne, une fois malade, met en branle, mais constitue un risque pour toute une communauté.
Professeur, parfois on rencontre en cours de route des gens qui sont agressifs, nerveux, qui vous répondent mal. Est-ce qu'on peut dire que c'est les résultats de... ça révèle qu'il y a des problèmes au niveau mental?
Vous savez, quand vous allez, vous voyez le Congolais aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on se pose la question, où sommes-nous? Et parfois, moi je suis au CNPP, il y a certains malades qui disent, qui est vraiment le vrai malade? Vous imaginez, vous entrez même à bord d'un bus, à bord d'un taxi, vous sentez que tout le monde, ça ne va pas. Quand vous voyez l'état des routes, même par exemple dans la ville de Kinshasa, partout il y a des déviations, il y a pratiquement maintenant aujourd'hui des zones qui sont pratiquement enclavées. Ça pose problème. Le transport, sans le vouloir, ça a pratiquement doublé, sinon triplé le prix. Et c'est là une répercussion sur la santé mentale de tout un peuple. Si vous êtes en ville le soir pour rentrer à la maison, ce n'est pas évident. Et d'où tout le monde est devenu dans l'impasse, tout le monde est devenu dans les qui-vivent. Et vous allez voir, les relations interpersonnelles posent problème aujourd'hui dans la population congolaise.
Bien, on va accueillir professeur Joachim Mukwau-Ebouel, psychopathologue. Professeur, bonjour.
Monsieur Pascal.
Bonjour, professeur Joachim.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse à la santé mentale et particulièrement nous parlons des traumatismes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par traumatisme, professeur?
Oui, merci beaucoup pour la question. Par définition, lorsque nous parlons du traumatisme, le traumatisme, c'est une blessure que subit quelqu'un, une blessure physique que subit quelqu'un, et pouvant résulter d'un choc, d'un problème quelconque, n'est-ce pas, que la personne a pu subir, mais pouvant avoir des répercussions sur le plan psychologique, pouvant avoir des répercussions sur son vécu personnel. Et puis généralement, lorsque nous parlons du traumatisme sur le plan psychologique, nous voyons bien, nous disons que le choc que la personne a subi peut avoir dépassé, n'est-ce pas, les ressources nécessaires qu'a la personne pour se défendre. Donc, un traumatisme, en résumé, c'est un choc, n'est-ce pas, c'est une blessure.
Psychologique.
Qu'une personne subit, mais pouvant, n'est-ce pas, aller bouleverser le vécu même personnel de la personne.
Et quelles sont généralement les causes des traumatismes?
Les causes des traumatismes sont diverses. J'ai suivi le professeur Ali Njokeni qui était en train déjà d'en évoquer certaines. Vous voyez, nous sommes dans le quotidien. La vie sociale est faite du fait que nous devons tous répondre aux exigences de la vie de tous les jours. Je prends le cas, par exemple, du vécu familial. Le fait que quelqu'un doit vivre dans un couple, ça nécessite une adaptation. Je prends encore le cas du métier. Le fait qu'une personne doit terminer les études et doit aller travailler, la personne doit également répondre aux exigences du métier d'une part, mais également le métier devra aussi répondre aux besoins de la personne. La vie que nous avons, que nous menons en société, fait que nous devons nous adapter à toutes les exigences, n'est-ce pas, de la société. Donc, c'est ça qui fait qu'à un certain moment, je pense que vous allez me poser la question de savoir un peu quelles sont les différentes natures, n'est-ce pas, du traumatisme. Mm-hmm. C'est comme ça que vous voyez que pendant que nous sommes en train de vivre, je vois le prof Ndiokeni était en train de faire allusion déjà à la COVID, à la pandémie du COVID-19. Déjà, le comportement de l'humain dans le monde entier est, donc, a subi modification. Le vécu quotidien de toute personne. À un certain moment, les gens pensaient qu'il n'y avait pas COVID-19 à Kinshasa, mais maintenant, on s'en rend bien compte avec les décès des proches que la COVID existe. Donc, ça bouleverse même le mode de vie de toute personne. Donc, les causes des traumatismes
sont diverses.
Mmh. Voilà, elles peuvent être, ces causes-là peuvent être endogènes ou bien exogènes.
Bien. Voilà. Docteur Ali, on comprend qu'il y a beaucoup de citoyens qui vivent avec des chocs, des blessures psychologiques qui ne sont pas prises en charge. Et qu'est-ce que cela peut entraîner comme conséquence?
Cela a des conséquences sur le plan d'abord de la personne, parce qu'en réalité, le traumatisme, le psychotraumatisme, c'est vraiment cet ensemble de mécanismes qui a un impact sur le plan neurobiologique, parce qu'il y a des hormones qui interviennent lors du traumatisme. Cela a un impact sur le plan psychologique, et quand on parle de plan psychologique, vous avez sur le plan émotionnel, sur le plan des émotions, sur le plan des sentiments. Vous savez, les émotions, ce sont des sensations qu'on a de manière brutale.
Docteur Ali, prenons par exemple quelqu'un qui vit à Beni. Tous les jours, il entend qu'on a égorgé les gens là-bas. Il y a eu tel problème, on a enlevé un proche, on a enlevé dans telle ou telle autre famille. Et on vit dans un tel environnement régulièrement. Comment ça se passe?
Mais oui, dans cet état, quand vous savez, on a parlé tantôt des causes, ça c'est une cause. Mais comment la personne vit ça? La personne vit dans une anxiété permanente. Peut-être qu'il s'est dit, à quand sera son tour? Et là, vous avez le type de traumatisme. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes dans leur vie. Un traumatisme unique qui présente un état de stress post-traumatique pour un seul événement. Ça, c'est un traumatisme de type 1. Mais il y a ces gens qui vivent les mêmes traumatismes à répétition, qui vivent la même chose, les mêmes scènes. Et ce sont des gens qui présentent aussi certaines manifestations de manière répétitive. Et il y a même, on va pas même au-delà du troisième type où vous avez des gens qui ont connu des multitudes des événements traumatiques. Et tout ça mis ensemble oblige à la personne une certaine stratégie de pouvoir s'adapter. Et dans ces stratégies d'adaptation, parce que si quelqu'un a vécu des psychotraumatismes, c'est dans le mécanisme d'adaptation qu'on va identifier, parce qu'on dit les mécanismes sont dépassés. En ce moment-là, quelqu'un qui a connu ces traumatismes, il peut avoir un mécanisme d'adaptation dysfonctionnel. Il n'est plus comme il était avant. On le comprend pas. Il peut aussi présenter des troubles mentaux avérés. En ce moment-là, si c'est une dépression avec des idées de mort, il faut le soigner. Il y a ces gens qui présentent des stratégies d'adaptation avec perte. Quelqu'un qui était là, on peut prendre le cas de quelqu'un qui est allé au travail, qui a vécu beaucoup de traumatismes, à tel instant qu'il ne veut plus aller au travail parce que sur le chemin où il doit se poser au travail, on a tué des gens et désormais, il ne peut plus aller au travail. Donc, il peut y avoir certains événements sur le plan émotionnel qui peut changer, mais il y a un dysfonctionnement où il y a perte. Mais ce qu'il a toujours fait, il ne peut plus aller au travail. Il y a des gens qui, après avoir connu ce traumatisme, ils reviennent à leur état d'avant. Là, il reprend son homéostasie. Le journaliste qui ne travaillait pas depuis qu'il a un traumatisme, et quelques temps après, il reprend son travail, il reprend sa vie quotidienne d'habitude. Mmh. Mais il y a des gens-là qui, au-delà même d'un traumatisme, ils ont une stratégie d'adaptation résiliente. Ils vont au-delà. Et dans la société, dans la communauté, ce sont ces personnes ressources qu'on peut même utiliser pour qu'ils puissent aider certaines personnes qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et ils vont utiliser, voilà, quels sont les mécanismes qu'ils ont pu utiliser pour pouvoir aller au-delà de ce qu'ils ont été avant le traumatisme, pour pouvoir aider ceux qui en souffrent.
Voilà. Alors, professeur Joachim, à Kinshasa, par exemple, à un certain moment, on a connu beaucoup de cas des enlèvements dans les taxis appelés catch. Beaucoup de jeunes filles ont subi des cas d'enlèvement et certaines aujourd'hui ne veulent même plus prendre les taxis ou elle est dans un taxi dès qu'on veut hisser les vitres, elle crie, elle pense directement à une tentative d'enlèvement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Oui, mais c'est ce sont les gens qui généralement sont, se trouvent dans une situation d'anxiété, d'anxiété permanente, parce que souvent les personnes sont informées de ce qui se passe dans notre environnement, des dangers qu'il y a lorsqu'on doit prendre un taxi le soir ou lorsqu'on se trouve seul. Les gens sont vraiment anxieux. Hein, les gens sont anxieux et c'est là où on parle généralement de traumatisme du type 2. Hein, du type 2 parce que souvent, de manière répétitive, ce sont des choses qui se font de manière beaucoup plus répétitive. Les gens sont beaucoup plus... les personnes sont anxieuses de dire, mais écoutez, lorsque je pose tel acte, je risque de tomber dans un piège. Donc ça, c'est ce qui est normal. Alors, c'est comme ça qu'on a compris. On avait vu que, dans une certaine mesure, avec tout ce qui est comme sensibilisation au niveau des dégâts que créent les taximens, les gens refusent de prendre les taxis et les gens préfèrent prendre les motos, ainsi de suite. Pourquoi ? À cause, n'est-ce pas, de ce traumatisme-là qui, de manière permanente, ce sont des faits permanents qui sont vécus dans notre ville, dans notre société. Et c'est comme ça qu'on s'en rend bien compte. On va réaménager, réajuster la manière de vivre.
Bien, on va accueillir Maître Gilbert Massoudi qui nous appelle de Kindu. Vous voulez également participer, intervenir, appelez-nous au 081-890-63-94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiokapi.net et demandez une chanson et nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Comment assurer une bonne prise en charge de cas de traumatisme? Comment assurer une bonne santé mentale à la population? Maître Gilbert, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Jody Kachama. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Gilbert.
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole et de m'avoir associé à ce débat. Compte tenu de notre débat d'aujourd'hui, moi, je voulais dire ceci. L'État congolais doivent aider ces personnes qui souffrent avec cette maladie-là en faisant des créations des hôpitaux dans les différentes provinces. Donc, l'État congolais doit construire uniquement les centres de santé qui doivent remplir tous les critères que l'hôpital possède. En plus de cela, ces gens-là qui souffrent avec cette maladie, ils doivent nécessairement soigner gratuitement, sans toutefois payer les frais. Parce que les gens qui souffrent de cette maladie, ils n'ont pas eu la force de travailler pour avoir de l'argent. Et l'OMS, qui est chargé de l'Organisation mondiale de la santé, dans leur tour, ils doivent mettre aussi des médicaments disponibles juste pour aider ces gens, de tels gens, de personnes qui sont en train de suivre, qui est en train de souffrir avec cette maladie. Voilà quelques suggestions que j'ai données à l'invité.
Merci Gilbert Massoudi de Kindu. Docteur Ali Njukenji, voilà, Gilbert propose qu'il y ait qu'on construise des centres de prise en charge de la santé mentale un peu partout dans les hôpitaux à travers le pays pour permettre aux gens, parce que les gens ont des problèmes divers, mais ils ne sont pas pris en charge.
Il a parfaitement raison, mais il s'est posé un grand problème pour notre pays qui a connu pratiquement un retard. Vous savez, au niveau du ministère de la Santé, il y a tout un programme, le programme national de la santé mentale. Et depuis que ce programme existe, ce programme n'a jamais été doté des politiques nationales. C'est ainsi qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a une politique nationale générale pour le ministère de la Santé. Mais il n'y a pas longtemps, le document sur la politique sous-sectorielle santé mentale a été adopté. Donc d'ici là, on va intégrer la politique nationale sous-sectorielle de santé mentale dans la politique nationale, ce qui va permettre de dégager un état stratégique qui permettra à ce moment-là de dégager les normes et les directives en santé mentale. C'est au décours de ces normes et directives qu'on sera obligé d'intégrer les soins de santé mentale dans les soins de santé primaire. Et comme par conséquent, on sera obligé de gérer le personnel, c'est-à-dire pour chaque soin de santé, il faudra combien d'hôpitaux qui devront intégrer le soin de santé dans leur exercice. Et là, tout cela pourra être résolu. Le soin, ce n'est pas un problème. Dès que vous avez les normes et les directives, on va former les gens qui devront prendre en charge ces malades, parce que en réalité, la santé mentale, c'est un fait parent pauvre dans notre pays. Les soins gratuits, ce n'est pas exclu. Il n'y a pas eu Covid. Mais tout d'un coup, Covid est apparu. Il y a eu beaucoup de maladies. Ici, pour beaucoup de maladies infectieuses ou la prise en charge, quand vous prenez la tuberculose, vous prenez le VIH-Sida et actuellement la Covid, la prise en charge est gratuite. Les gens s'y investissent, l'État s'y investit. Donc, il n'y a pas... C'est tout à fait normal que si l'État considère que la santé mentale fait une priorité, on pourra aussi arriver au moment où on peut prendre les malades en charge. Parce qu'on s'occupe des gens qui sont encore à la maison. Qu'en est-il encore plus loin des malades errants qui courent la ville et dans toutes les provinces?
Voilà, donc... vous dites qu'il n'y a pas encore une politique, il n'y a pas des normes, des directives, mais pourquoi? Parce que vu l'ampleur des problèmes de santé mentale, on ne devait pas encore traîner les pieds, docteur Ali.
Mais c'est d'ailleurs à cause de cette ampleur que non, l'actuel secrétaire général à la santé a trouvé que c'était opportun et vraiment urgent qu'on puisse adopter la politique nationale et qu'on soit validé. Une fois validé, les chemins vont suivre pour qu'on puisse arriver à l'étape de l'implémentation effective.
Est-ce que cette politique-là existe déjà? On a déjà, c'est déjà sur papier. Et qu'est-ce qui bloque?
La politique a été validée au mois de décembre. Donc, je crois déjà ce mois ici, on pourra faire déjà une fois validé, on va disponibiliser et continuer le reste du travail.
Et qu'est-ce qui est prévu dans cette politique générale de prise en charge de la santé mentale?
Dans la politique, c'est dans l'ensemble intégrer les soins de santé mentale, comme a dit l'auditeur, dans les soins de santé primaire. C'est-à-dire, le problème de santé mentale ne doit pas rester comme un problème étranger à la vie actuelle, à la vie quotidienne. C'est-à-dire, il y aura des choses qu'on devra identifier déjà dans la communauté, parce que le ministère de la Santé est bien organisé à partir des soins de santé primaire, des problèmes qui peuvent déjà être identifiés au sein de la communauté. Et dans la communauté, il y a même des prises en charge. Les relais communautaires sont là, ils peuvent déjà prendre en charge les problèmes de santé mentale. Tenez par exemple, quand nous voyons qu'il a perdu son mari, une veuve, le fait qu'elle soit déjà accompagnée par d'autres veuves, c'est une forme de prise en charge en santé mentale. C'est une prise en charge psychosociale. Donc, si on a déjà des documents validés qui intègrent ces différents aspects, du moment au niveau de la communauté, on trouve que cette femme qui est accompagnée, mais ça ne va pas, les problèmes perdurent, à ce moment-là, on va l'orienter vers le centre de santé. Au centre de santé, elle va rencontrer l'infirmier titulaire qui est dûment formé. En ce moment-là, lui, c'est bien qu'une homme, face à cette situation, il peut déjà identifier que la femme est en train de faire une dépression. Et selon les plateaux techniques au niveau du centre de santé, s'il est en train de faire une dépression et que l'infirmier sait déjà qu'il doit lui prescrire des antidépresseurs, d'autant plus qu'au niveau du centre de santé, il ne sait pas manipuler les antidépresseurs, lui, il va encore référer au niveau supérieur. C'est là où il va trouver le médecin qui pourra le prescrire. Donc, une fois validé, une fois implémenté, le circuit normal de prise en charge sera respecté et on va s'occuper de la santé mentale de toute la population.
Et si on prend par exemple les cas du Nord Kivu ou de l'Ituri où les gens vivent des massacres ou des problèmes, des enlèvements au quotidien, faut-il attendre ou bien l'urgence s'impose pour rapidement installer des centres de prise en charge?
Vous voyez, l'importance de cette politique, c'est pour réglementer. Si vous êtes à l'Est, et nous avons l'expérience de là, il y a d'ailleurs beaucoup de centres qui sont là, qui sont tenus par des autres personnes, et si vous tenez compte de ça, à l'Est, il y a déjà des ONG qui interviennent. Les ONG interviennent à l'Est, mais il y a un problème, ce n'est pas encore réglementé. Et ce qu'ils font, personne ne sait contrer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, une fois, la politique, le rôle de la police est pour réglementer. Mais il y a déjà des mécanismes de prise en charge. Il y a beaucoup de fonds qui sont alloués là-bas, qui parfois, malheureusement, n'atteignent pas la cible parce qu'il y avait absence de politique nationale. Une fois adopté, ça va rentrer réglementé parce qu'il y a des ONG qui interviennent déjà là-bas. Sans pour autant qu'ici, au niveau national, qu'on le sache, on le retrouve déjà là-bas. Ils ont beaucoup d'argent qui interviennent. Mais maintenant, là, l'État, on les devra canaliser tous ces fonds pour le bien-être de la population.
Bien. On va accueillir Mathieu Kassidebeni. Bonjour.
Je salue tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Mathieu, par rapport à la prise en charge des cas de traumatisme en République démocratique du Congo?
Oui, je dirais, comme vous l'avez dit à l'invité, que c'est une urgence qui s'impose. Ici à Beni, nous avons besoin d'une structure sanitaire qui pourra soigner au moins les gens, parce que les gens souffrent ici des traumatismes à cause des tueries. Et moi, je pense que je ne suis pas d'avis avec l'invité lorsqu'il rejette cette responsabilité à des ONG. C'est dans des missions régaliennes de l'État congolais de pouvoir créer ces centres pour soigner la population.
Non, docteur a dit qu'il y a des ONG, par exemple à Beni, au Nord Kivu, en Ituri, qui font déjà ce travail, qui prennent en charge les cas des traumatismes.
Oui, admettons, mais c'est encore insignifiant, parce qu'il faut que ça, l'État aussi prenne cette activité, cette responsabilité, pour qu'il puisse au moins être valorisé jusqu'à atteindre toute la population, parce que presque toutes les familles habitantes de la ville de Beni sont touchées par les affres de guerre. Alors je me dis, dans cette situation, vous allez voir qu'il y a certains cas qui sont amenés devant les cours et tribunaux qui sont liés au traumatisme, et que peut-être la personne serait dans ces états et ne devrait pas se comporter de cette manière-là. Et donc, la mise en place de ces centres ici à Beni, ça peut aider en tout cas la population, parce que nous ne pouvons pas en tout cas supporter que les gens continuent à marcher dans l'ignorance, je dirais, parce que de telles structures sanitaires ont des finalités qui peuvent amener la personne à de bonnes raisons, à agir en homme normal. Et c'est ça aussi qui peut amener le développement de notre région et aussi de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, avant de citer, j'aimerais poser la question à l'invité, que je voulais savoir les endroits comme à Kinshasa, comment faut-il accéder à des soins, à la prise à charge des personnes qui ont des troubles mentaux. Comment on peut arriver à accéder, bénéficier de soins pareils?
D'accord. Professeur Joachim Ebouel, vous avez la parole.
Oui, merci. Donc, comment on peut accéder à la prise en charge de personnes qui sont victimes de traumatismes psychiques? Et dans un premier temps, je voudrais d'abord signaler que la prise en charge des personnes victimes de traumatismes psychiques est multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs intervenants qui doivent travailler autour d'une personne qui est
traumatisée.
Qui a été victime d'une personne traumatisée. Mmh. Alors, cela dépend de quoi? Cela dépend de la nature du traumatisme. Si, par exemple, je prends en prenant la l'une des natures. Si, par exemple, la personne qui a été traumatisée, la personne a été traumatisée, donc il y a des blessures, hein, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, donc, des blessures qui sont pas apparentes vraiment. Voilà. Ça dépend. Est-ce que la personne a eu, n'est-ce pas, a été victime d'un traumatisme causé par la brûlure, donc une maison a pris feu et puis tout le monde est en branle, ou bien la personne a subi le coup de machette, n'est-ce pas, de Kourouna la nuit, tout cela dépend. Ça dépend. C'est pourquoi je dis que la prise en charge doit être un peu dimensionnelle. Et la première chose à faire, si une personne est déclarée traumatisée, la première chose à faire, c'est d'abord c'est de vérifier si vraiment il y a des dégâts. Il y a des dégâts. Est-ce que le coup a laissé, donc le traumatisme a laissé des coups qui sont vraiment apparents? Est-ce que le traumatisme a provoqué des blessures qui sont des blessures qu'on appelle pénétrantes, c'est-à-dire que avec du sang qui coule? Est-ce que la personne a été intoxiquée et combien de personnes ont été intoxiquées? Est-ce que c'est un traumatisme primaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est fait de manière aiguë, et non comme il y a eu une catastrophe? Ça se fait pas tout le temps, mais ça se fait comme ça de manière inopinée. Est-ce que c'est quelque chose qui est répétitif, prenons dans le cas de violence au niveau des familles, au niveau des familles, est-ce que c'est vraiment répétitif ou bien c'est comment? Est-ce que c'est comme le cas dans la ville dans la ville de Kinshasa avec des Kourouna, mais également avec les enlèvements dans la ville? Donc là,
ou dans une famille où vous trouvez un enfant qui est violé par son père et voilà.
Par exemple, il y a des cas comme ça où vous trouvez des cas dans une famille, n'est-ce pas? Mais tout le monde est ébahi, on comprend pas comment ce papa peut-il sortir avec sa fille. Les gens sont traumatisés. Maintenant, la prise en charge dépend maintenant. Est-ce que on va maintenant prendre en charge d'une part les personnes qui sont déclarées elles-mêmes victimes, mais également l'entourage, ce qu'on appelle la systémique, on mettra sur pied une approche systémique.
Donc, professeur, on comprend que la prise en charge des problèmes de traumatisme, ça doit être intégré dans les soins de santé primaire, partout à travers le pays.
À travers le pays, ça doit être intégré dans le soin de santé primaire. Pourquoi d'abord? L'une des raisons, c'est que on n'épargne personne. Personne ne peut se dire « je ne serai jamais victime de traumatisme ». Donc c'est un fait de santé publique. C'est un fait qui répond vraiment au quotidien de la population. C'est pourquoi ça doit être intégré. Mais comme ça doit être intégré, il faudra bien qu'on tienne compte, n'est-ce pas, de la diversité des intervenants qui devront travailler autour de personnes ou en faveur, n'est-ce pas, de personnes qui sont souvent traumatisées, mais qui sont laissées comme ça, qui ne sont pas pris en charge.
Alors, Mathieu voulait savoir ici à Kinshasa s'il a besoin de consulter un psychologue. Où est-ce qu'il va aller? Il s'adresse à qui?
Oui, ici à Kinshasa, s'il est en situation de traumatisme psychique, l'institution primaire, l'institution principale, c'est le CNPP. Il peut s'adresser au CNPP.
À l'Université de Kinshasa.
À l'Université de Kinshasa, au centre qu'on appelle centre neuropsychopathologique, mais également, il existe aussi d'autres spécialistes qui sont parsemés par-ci, ici et là. Vous savez que, il n'y a pas longtemps, nous avions formé un groupe de spécialistes qui est en psychotrauma. Nous avions fait ça au CNPP, j'étais parmi les formateurs. On a formé pendant 4 ans, n'est-ce pas, les spécialistes devant intervenir auprès de personnes se trouvant en situation du stress. Donc ces gens-là travaillent, il y en a qui travaillent chez moi au centre, au CMA chez moi, j'ai des gens qui travaillent donc à ce niveau-là, mais il y en a également qu'on peut trouver dans d'autres institutions. Donc c'est question vraiment que la personne puisse être informée et la personne sera référée auprès des spécialistes qui existent dans notre pays.
Safari nous appelle depuis Gabarrière. Bonjour Safari.
Voilà, bonjour à tout le monde. Merci pour la parole.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
D'accord, ok. Je crois que le traumatisme existe. C'est pas plus que tout le monde peut être traumatisé. Et puis ça doit être une maladie psychologique, c'est vrai. Mais j'aimerais soulever un cas. Avec la situation que nous vivons ici à l'Est, la situation de la guerre, bien sûr, il était un jour un jeune, plusieurs jeunes, je crois, capturés par des rebelles, des groupes de milices. Mais, à leur grande surprise, le groupe rebelle les ont amenés quelque part et ont commencé à les égorger. Alors, il y avait un jeune homme à regarder leur ami égorgé en public comme ça. Lui, il avait piqué la crise. Un essai plus réveillé, et aujourd'hui, il est atterré suite à ce traumatisme, bien sûr. Alors, c'est ce qui m'amène à poser une question. Est-ce que le traumatisme peut amener un individu à la mort? C'est ça ma question qui me préoccupe vraiment. Merci pour la parole.
D'accord. Docteur Ali, est-ce qu'un traumatisme pareil peut conduire à la mort? Bon, justement, il y a eu un cas de mort, justement.
Mais quand on parle de traumatisme, nous avons dit que c'est l'ensemble des mécanismes qui, sur le plan neurobiologique, c'est-à-dire les substances au niveau du cerveau, les hormones interviennent. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, quand il a peur, il y a une émotion, il a peur, directement, il y a des battements du cœur. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce que nous vivons de l'extérieur, on voit, on vit, on entend, ça va au niveau du cerveau, ça sécrète certaines substances, ce sont ces substances-là qui sont en lien avec le stress. Et quand on parle du stress en général, le stress nous prend de la tête à la plante des pieds. Une femme qui est enceinte, une fois stressée, il peut faire un avortement. Une femme qui est enceinte, face à un stress, il peut faire un accouchement prématuré. Donc, le stress, ça c'est l'extrême. Ce qu'il avait présenté, ce qu'on appelle la sidération émotionnelle. Il y a des gens-là qui, devant le stress, vous avez l'impression que quelqu'un est décédé, il meurt. Parce qu'il ne respire pas bien, il ne bouge plus, il est resté. Comme ça, figé. Ce qu'on appelle la situation. Donc, cette personne-là, peut-être qu'il soit mort, et d'autres présentent, d'ailleurs, la plupart des gens présentent ce qu'on appelle la sidération émotionnelle. Les gens croient même que ces personnes-là sont mortes. Donc, le stress, en bref, le stress nous prend de la tête à la plante des pieds, et ça peut avoir plusieurs manifestations, ça peut aussi nous conduire à la mort. Ce n'est pas exclu.
On voit aussi souvent des gens en cours de route en train de monologuer, ils traversent la route, mais vous sentez que la personne n'est pas là. Elle est ailleurs, en train de parler, parler seule.
Ah ben vous savez qu'il y a, d'ailleurs, c'est plus grave. Il y a des gens-là qui peuvent faire le monologue soliloquie, le fait de parler à soi-même. Il parle de ses problèmes à haute voix. C'est comme si quand on dit « je réfléchis à haute voix », il est seul, il n'a pas un interlocuteur, il commence à parler. Mais plus grave, il y a des gens-là qui ont des problèmes mentaux avérés, qui, quand il parle, vous suivez ce qu'il dit, c'est comme s'il s'adressait à des tierces personnes que d'autres personnes ne voient pas. Là, ça, on va au-delà de ce qu'on appelle le dialogue hallucinatoire. Et quelqu'un qui parle, vous avez l'impression qu'il est en train de s'adresser à certaines personnes que les gens ne voient pas. Tout ça, ce sont des manifestations de dire qu'il y a une détresse psychologique et ça ne va pas dans le fond de la personne.
Et d'autres qui changent de comportement, qui deviennent soit des gens qui deviennent agressifs une personne qui ne réagit pas.
Oui, la personne qui ne réagit pas face à ça, c'est ce qu'on appelle la sidération émotionnelle. Par contre, il y a de ces gens-là qui, face à un stress, ils vont plus loin, ils peuvent développer un état d'agitation. Certaines personnes développent certains mécanismes comme l'addiction. Ils vont se mettre à fumer, à boire, à consommer des substances psychoactives pour avoir l'impression de s'évader face au stress. Donc, il y a plusieurs comportements qu'on peut vivre face à un stress. Et ces comportements, parfois, ne peuvent pas être canalisés. Ça tient compte de l'expérience de tout un chacun, de sa personnalité. Quelqu'un qui a déjà certaines vulnérabilités, à telle enseigne que face à un stress, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Ça dépend de certaines vulnérabilités individuelles, comme la personnalité, son vécu, comment on a grandi et comment on a su développer les mécanismes de défense.
Professeur Joachim, on comprend que les besoins sont énormes. Est-ce que dans chaque province, dans les 26 provinces, on a des centres de formation où on forme des spécialistes capables de prendre en charge les cas des traumatismes?
Les centres de formation, nous avons ici, hormis ici à l'Université de Kinshasa où on forme les spécialistes en santé mentale. Et quand vous allez à l'Est, et comme j'ai dit, l'autre auditeur qui n'a pas bien compris ce que je lui ai dit, il y a des ONG qui agissent, mais le rôle, l'importance de l'État, c'est de canaliser tout ça. Et quand l'État agit non seulement avec lui-même, mais l'État, il y a aussi des individus ou des ONG qui peuvent intervenir dans la prise en charge. Donc, à l'Est, vous allez voir parfois, il y a maintenant des universités ou des institutions où on forme quand même des gens, des experts en santé mentale. J'ai vu beaucoup d'institutions comme ça à l'Est. Donc, il y a beaucoup d'institutions, il y a des gens qui sont formés. Malheureusement, la plupart des gens qui sont formés sont concentrés ici à Kinshasa. Mais on trouve beaucoup de neuropsychiatres ici à Kinshasa parce que au niveau du programme national de santé mentale, il y a quand même des coordinations dans certaines provinces. Mais ces coordinations sont tenues par les spécialistes, les neuropsychiatres ici à Kinshasa et au Congo central. Mais ailleurs, ce sont soit des médecins généralistes, voire même des infirmiers ou des psychologues. Donc, les besoins sont énormes au niveau de l'État. C'est ça même l'importance des politiques nationales. Parce que dans les politiques nationales, on tient compte du personnel, on tient compte de la formation continue et on tient compte des intrants, comment il faut prendre en charge les médicaments et tout le nécessaire pour une bonne prise en charge des problèmes de santé mentale dans notre pays.
Bien, on va accueillir Justin Kalabia. Il nous appelle depuis Arou, en Ituri. Bonjour Justin. Justin, bonjour. Voilà, il n'est plus en ligne. Il va certainement nous rappeler. Nous parlons de la prise en charge des cas de traumatisme dans les cas de la santé mentale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer cette prise en charge psychologique et psychiatrique dans les soins de santé primaire en République démocratique du Congo? On a suivi tout à l'heure qu'il faut une politique. Au-delà de la politique, professeur Ali, qu'est-ce que cela va exiger également?
Si la politique faut valider, il faudra maintenant dégager le plan stratégique. Le plan stratégique, c'est dans la mise en œuvre, comment implémenter cette politique. Et dans la concrétisation, il y aura des normes et des directives. Ce sont des documents sur lesquels on va se baser pour former les gens, pour dire qu'au niveau du centre de santé, qu'est-ce qu'on doit faire, comment implémenter cela et à différents niveaux. Et c'est ce qu'on doit faire. Et au-delà des politiques nationales, c'est un élément important qu'on n'a pas encore dans notre pays et nous pensons que cette année, nous allons nous appeler pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la législation en santé mentale. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas improviser, j'arrive à un endroit, même si je suis professeur, je suis spécialiste en santé mentale, je ne peux pas arriver et dire que non, moi, je commence à faire ça. Non, il y a la législation pour s'occuper, par exemple, quel est le droit que les malades mentaux ont. Ils n'ont pas de droit. Chez nous, ça n'existe pas. On n'a pas de législation. Les mécanismes pour hospitaliser, par exemple, un malade. À tel instant, moi, je peux être sur le boulevard, en marchant, je vois un malade qui casse par prise d'un véhicule. Je ne ferai rien, parce que la loi ne prévoit rien. On va l'amener, c'est mal à l'hôpital, on va dire que non, il a cassé, mais rien n'est protégé. Mais maintenant, la législation en santé mentale devra être là pour dire que non, devant telle situation, que devra faire l'officier, par exemple, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il a posé tel acte, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment canaliser pour protéger la personne et le prendre en même temps en charge? Donc, au-delà de la politique, des plans stratégiques et des normes, il faut aussi penser à la législation en santé mentale pour notre pays.
Voilà, donc on doit penser à la législation. Jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas encore. C'est ce que vous voulez dire.
Non, ça n'existe pas. Il n'existe pas de législation en santé mentale dans notre pays. Il n'y a aucune loi. Aucune loi.
Aucune loi par rapport à cela. Comment assurer?
Je pense que c'est important pour les députés, hein, pour pouvoir chercher des lois quant à ce. Et nous allons militer pour ça, pour qu'on ait un jour une législation en santé mentale.
Alors, qui doit faire la proposition? Et vous pouvez approcher les députés et faire des propositions, c'est ça?
C'est ce que j'ai dit. Nous allons, dans le cadre de la société civile, nous allons nous imprégner de la situation pour proposer quelque chose et ils vont militer sur ça pour pouvoir valider cela.
Bien, on va accueillir Laurent Mignon de Kananga. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, Daniel Kachama. Merci beaucoup. Je pense que cette question, c'est vraiment une question vraiment très sensible à la santé de l'homme congolais. Je pense bien que si l'État implantait les centres hospitaliers dans le Congo profond, ça sera aussi mieux. Parce qu'il y a aujourd'hui, nous avons une carence de neuropsychiatres dans cette maladie. Parce que les équipements sur le plan physique, mais aussi la formation de médecins publics, c'est aussi mieux.
Laurent, j'imagine qu'à Kananga, disons dans les Kasaï centrales, il y a beaucoup de cas de traumatisme avec le phénomène Kamuina Nsapu.
Oui, il y, y en a beaucoup, mais il y a une carence de neurones 4, il n'y a pas de médecin spécialiste dans cette maladie. Donc, il peut juste tenter un seul qui va se connaître. Je dis aussi que s'il est pas formé, s'il n'est pas implanté aussi les centres hospitaliers, ça sert aussi mieux pour mettre cette maladie.
D'accord. Merci Laurent. Professeur Joachim, votre réaction?
Oui, je pense qu'au niveau de la prise en charge, donc c'est que j'insiste encore sur le fait que la prise en charge des personnes qui sont victimes de traumatismes psychiques, c'est une prise en charge multidimensionnelle. Et que au niveau prenant de ce qui s'était passé au Kasaï, ce qui est vrai, c'est que il doit y avoir eu des gens qui sont jusqu'à présent traumatisés, qui sont restés traumatisés. Je vais donner un peu un exemple d'une recherche que je viens de mener avec l'un de mes étudiants qui est en train de préparer son article sur au sujet de ce qui s'est passé au Congo central, ce qu'on appelait la situation de Bumbu, voilà.
De Bumbu Diakon.
On a bien compris que vraiment parmi les personnes qui étaient victimes pendant ce moment-là, il y en a encore, il y a vraiment une cohorte qui est restée traumatisée jusqu'à aujourd'hui. Et on a pris l'échantillon de ceux qui n'avaient pas encore l'âge, qui étaient encore enfants et qui étaient âgés de moins de 10 ans. Et après, on constate que ces gens-là, une fois devenus adolescents, ont encore en souvenir cela et vivent très mal la situation. Vous voyez? Donc, la prise en charge et la prévention également de traumatismes psychiques devient l'une des priorités pour aménager la vie sociale de la population.
Bien, on comprend que les besoins sont énormes dans ce secteur de santé, de la santé mentale, pour assurer la santé mentale de la population. Et si on peut résumer, donc on peut dire qu'il faut une politique, mettre en place une politique, des stratégies, normes et directives, et puis une législation, comme Dr Ali l'a dit tout à l'heure. Dr Ali, on va clôturer cet entretien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport à la prise en charge mentale de la santé mentale de la population?
Oublions, le professeur Joachim vient d'effleurer cet aspect des choses, ce sont les traumatismes qui reçoivent les enfants. Vous savez, pour développer un pays, le principe, il faut s'occuper de la santé mentale de la mère et de l'enfant de 0 à 59 mois. Vous savez, ce que nous sommes, c'est le fruit de ce que nous avons été avant l'âge de 5 ans. Et vous allez vous rendre compte que dans notre pays, l'enfant congolais n'existe pas. Et maintenant, au niveau même du ministère de la Santé, on est en train de fournir beaucoup d'efforts pour avoir le carnet de santé. Avant, la carte de santé qu'on avait ne se réduisait que à la vaccination, à la prise de poids et de la taille. Maintenant, on doit suivre tous les développements, d'autant plus que il y a des troubles de portion Mouka, vous connaissez, il y a des troubles qu'on peut identifier déjà dans le développement de l'enfant, comme l'autisme chez l'enfant avant l'âge de 3 ans, si on suit les développements des différents aspects. On ne suit pas le développement psychosexuel de l'enfant parce que ça ne se retrouve pas sur la carte. Or, si on suivait cela, on aurait dû déjà identifier certains troubles des enfants avant l'âge de 5 ans. Conséquence, les troubles que nous identifions chez les enfants, c'est au-delà souvent à l'âge scolaire. Quand l'enfant commence à l'école, il fait des troubles, on se rend compte que l'enfant n'est pas adapté. Donc, nous devons privilégier, nous devons considérer dans notre pays que la santé mentale, c'est une priorité. Quand on peut beau parler, par exemple, des changements de comportement. Vous allez voir, il y a toute une équipe qui s'occupe du changement de comportement. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas pensé que le comportement fait partie des éléments de santé mentale et qu'on puisse intégrer ça comme une priorité dans la santé mentale, nous allons échouer. Donc, notre avenir tient compte de la santé mentale de l'enfant, des 0 à 5 ans et de la maman. Et quand on s'occupe de cela, nous allons développer notre pays.
Bien, Dr Ali Njoukendji, neuropsychiatre, merci. Et nous disons également merci au professeur Joachim Mukao-Ebuel, psychopathologue. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.